Chers frères et sœurs et chers amis, aujourd'hui nous arrivons à l'étude numéro 30 de la série extraordinaire et importante qui concerne la prière. Nous aurons deux petits thèmes. Le premier, c'est prier pour tout ce que vous désirez. Et le deuxième sera, je pense, prier selon la volonté de Dieu. Donc, nous commençons par le thème prier pour tout ce que vous désirez. La Bible nous dit « Tout ce que vous demanderez en priant, eh bien, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Saint Marc, chapitre 11, verset 24. Et je dis bien « Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé avec l'Évangile de Jean, chapitre 15, verset 7. Ensuite, il est dit, il te donnera ce que ton cœur désire. C'est écrit dans les psaumes, chapitre 37, verset 4. Il te donnera ce que ton cœur désire. Plus loin, il est dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Saint Jean, chapitre 14, verset 14. Et dans Philippiens, chapitre 4, verset 6, il est dit, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. On pourrait simplement revoir ces textes juste pour qu'on comprenne bien comme c'est merveilleux que le Seigneur désire de nous répondre. Donc, tout ce que vous demanderez en priant, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Il te donnera ce que ton cœur désire. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Il est dit dans Saint Matthieu, au chapitre 7, versets 7 à 8, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Et celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Après qu'un pasteur a insisté sur le fait que Dieu est vraiment disposé à donner en réponse à la prière, selon les déclarations formelles du Sauveur que nous venons de voir ensemble, et que quiconque demande, reçoit. Alors un diacre de l'église baptiste, s'est levé dans l'auditoire, et il a un petit peu riposté. Il n'était pas tout à fait d'accord, et il a dit, « Frère, moi aussi, comme vous, je crois à la prière, et je sais très bien que Dieu exauce. Mais je ne pourrai jamais croire qu'il nous demande de prier pour tout, littéralement. Vous parlez comme si on pouvait demander à Dieu n'importe quoi. Que sais-je ? Admettons par exemple qu'on va demander quelque chose de presque stupide, tel qu'un pot de cornichons, par exemple. » Bien sûr que les gens dans la salle se sont mis à rire. Mais le pasteur ne riait pas du tout. Il a simplement poursuivi son argument et il a dit « Oui, oui, c'est vrai, mais si quelqu'un a vraiment besoin d'un pot de cornichons, pourquoi pas ? Il peut le demander à Dieu. Et je peux témoigner ici avoir reçu du Seigneur des choses beaucoup plus étonnantes encore et en apparence beaucoup plus improbables. Et tout cela en réponse à la prière. Ça peut vous paraître stupide, mais croyez-moi, Dieu a répondu à des prières qui étaient encore beaucoup plus terre-à-terre que vous le pensez. Et que devons-nous donc demander dans la prière? Nous trouvons la réponse dans la Bible. Nous avons le droit, c'est vrai, de demander à Dieu tout ce qu'il est légitime de désirer. Et tout chrétien devrait pouvoir exposer à Dieu chacun de ses désirs, et ce serait un péché que de convoiter une chose que nous n'aurions pas la liberté de demander à Dieu, des choses qui vraiment pourraient le choquer. Ça, c'est évident qu'il faut demander la sagesse pour savoir ce que nous pouvons vraiment demander qui est en accord avec sa sainte parole. Et dans ce cas, il nous faut prier pour qu'un tel désir soit ôté de notre cœur s'il n'est pas en ordre avec la parole de Dieu. Mais si le désir n'est pas coupable, donc il n'y a pas de culpabilité dans ce que nous demandons, que ça c'est clair et net, et avec, on peut dire, quelque chose de saint, alors demandez simplement, demandez à votre papa céleste de l'accomplir selon sa promesse. Nous examinerons par la suite les conditions à remplir quand nous prions. Mais la question qui nous occupe présentement, c'est simplement que dois-je demander en priant ? Et je le répète, nous devons faire de tous nos besoins, de tous nos désirs, simplement un sujet de prière. Voyez-vous, c'est triste de constater combien la prière est devenue pour le croyant moderne une chose artificielle et stéréotypée. On croit devoir employer un langage spécial, d'éloquentes entrées en matière, des phrases théologiques terminées invariablement par la formule magique, pour ainsi dire. Nous te demandons toutes ces choses au nom de Jésus. Ainsi de même, comme pour le style de la prière, on a des vues limitées à l'égard des sujets de nos requêtes. Certains enseignent que si les Juifs pouvaient réclamer de l'Éternel des bénédictions temporelles, nous, chrétiens, ne devons lui demander que les bénédictions d'ordre spirituel, surtout rien d'autre. Certains prétendent qu'ils seraient coupables de prier pour la pluie, pour du travail, pour de l'argent, ou même pour du pain à manger, etc. Malgré le modèle qui nous est donné dans la prière dominicale, ils considèrent que l'on peut implorer le secours divin dans des circonstances graves, très graves de la vie, mais que ce serait en quelque sorte abuser carrément de son précieux temps que de l'invoquer pour les petites choses de tous les jours. Mais il est grand temps, chers amis, que les chrétiens s'affranchissent de ces limitations traditionnelles dans le domaine de la prière et qu'ils apprennent, selon la parole de Dieu, qu'ils ont le droit, ils ont même le devoir de prier pour toutes choses et en toutes circonstances. Et oui, premièrement, les chrétiens sont invités à demander littéralement tout ce dont ils ont besoin. Vous l'avez bien compris, les chrétiens sont invités, ils sont invités à demander littéralement tout ce dont ils ont besoin. Dieu invite ses enfants à demander n'importe quoi dont ils ont besoin. Dans Saint Marc, chapitre 11, versets 23 et 24, il est dit, c'était bien là la pensée de Jésus-Christ quand il a dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais qu'il croit que ce qu'il dit va arriver, il le verra s'accomplir. Et c'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez, oh oui, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Voyez-vous, dans ce passage, le Seigneur nous dit de prier pour tout ce que vous demanderez. Et quand même, ce serait d'ordonner à une montagne de se jeter dans la mer, ce qui évidemment est symbolique pour bien nous montrer qu'on peut prier pour des choses qui paraissent invraisemblables. Évidemment, la foi en est toujours la condition, mais ce n'est pas là ce que nous discutons maintenant. Nous voulons seulement, chers amis, attirer votre attention sur cette invitation merveilleuse et illimitée qui nous est faite dans le domaine de la prière. Relisons encore les promesses de notre Sauveur bien-aimé à ce sujet. Et ceci dans Saint Jean, chapitre 15, verset 7. Là, il nous dit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Je répète, parce que c'est important. Il est dit, si vous demeurez en moi, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, alors demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Comme aussi dans le psaume, chapitre 37, verset 4, fais de l'Éternel tes délices. Oui, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Donc, la prière de l'enfant de Dieu doit coïncider avec le désir de son cœur. Littéralement, toute chose peuvent donc devenir un sujet de prière selon la précieuse promesse du Sauveur bien-aimé qui nous dit encore dans Saint Jean, au chapitre 14, verset 13, « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père céleste soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferait. Alléluia. Deuxièmement, ce n'est pas mal de le demander si ce n'est pas mal de le désirer. Je répète, ce n'est pas mal de le demander si ce n'est pas mal de le désirer. Oui, tout chrétien doit pouvoir mettre au diapason ses désirs et sa vie de prière. Tout ce que vous avez le droit de désirer, vous avez aussi le droit de demander à Dieu. Si vous n'avez pas la liberté de prier à ce sujet, c'est que le désir en lui-même est peut-être coupable. Et dans n'importe quel domaine, le croyant doit pouvoir demander à son Père céleste ce dont il a besoin. Ou alors, pourquoi pas carrément de cesser de désirer certaines choses qui sont peut-être pas tout à fait dans les critères de la parole de Dieu, pas absolument nécessaires. Imaginez un instant que le Seigneur Jésus-Christ frappe à votre porte et qu'il vous dise « Vois-tu, je suis venu chez toi afin de pourvoir à tous tes besoins et ceci afin de satisfaire tous tes désirs légitimes et de te rendre vraiment, vraiment heureux. S'il se trouvait dans votre maison, par exemple, des choses qui lui déplaisent fortement, par exemple de la musique hard et de la littérature mondaine, voire porno, des habitudes coupables qui souillent le corps et l'esprit du chrétien, des compagnies douteuses, etc. Vous en aurez, j'espère, honte, n'est-il pas vrai? Et vous, vous mettriez à tout nettoyer à fond chez vous, je l'espère. Et si cette présence corporelle du Seigneur vous était accordée, cela ferait une différence considérable dans toute votre conception de la vie et dans tous vos désirs. Mais aussi, vous auriez une beaucoup plus grande liberté de lui exposer vos besoins légitimes. Vous pourriez lui dire « Seigneur, je n'ai pas assez de nourriture pour mes enfants. Donne-moi, je te prie, ce qu'il nous faut pour vivre. » Ou bien encore, « Ma femme est si faible qu'elle a de la peine à faire son ménage. Veux-tu, s'il te plaît, lui accorder un renouveau de force et de santé ? » Ou bien, « Seigneur, tu sais que nous avons de la peine à nous entendre, que nous nous querellons souvent pour des petites choses futiles. Veux-tu nous donner ta grâce et ta patience pour nous aimer en véritable chrétien ? Et si le Seigneur, Jésus-Christ, s'il venait séjourner chez vous, n'est-ce pas ainsi que vous lui exposeriez librement tous vos besoins? Eh bien, c'est exactement ce qu'il veut que vous fassiez dans la prière. Si vous désirez une certaine chose, tout simplement priez pour cela. Et si vous n'en avez pas la liberté, alors, cessez de le désirer. Il serait coupable et honteux d'entretenir dans notre cœur des désirs qui ne puissent être exposés à Dieu dans la prière. Mais tout ce que vous croyez pouvoir légitimement obtenir avec votre travail, par vos propres efforts, vous avez aussi le droit, évidemment, de le demander à Dieu dans la prière. Troisièmement, il nous est dit dans Philippiens au chapitre 4, verset 6, de prier pour toutes choses. Oui, de prier pour toutes choses. En vérité, votre Père Céleste veut être associé à tous les secrets désirs de votre cœur. Il ne veut pas que vous lui cachiez quoi que ce soit, mais que chacun de vos désirs soit tourné en prière. Et dans le verset de Philippiens, chapitre 4, le Seigneur nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu, et ceci par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui, elle, surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Oui, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. En toute chose, n'ayez pas peur de faire connaître vos besoins à Dieu. Voilà donc le remède suprême aux soucis, aux inquiétudes, aux sourcils froncés et aux cœurs troublés, qui sont les résultats de désespoir souvent. Mais nous voulons avoir de l'espoir et non pas être frustrés, pas être angoissés. Et au sujet de notre avenir, nous désirons quand même un peu d'espoir. Aussi se mettre en quelque sorte en souci, c'est considérer, selon la parole de Dieu, déjà comme un péché. Car voyez-vous, c'est l'opposé, totalement l'opposé de la foi, et l'opposé pas seulement de la foi, aussi de la confiance en notre Père Céleste. John Wesley, qui était un grand homme de Dieu, fondateur même de l'Église méthodiste, a dit un jour « Je ne pourrai pas plus m'agiter et me mettre en souci que je ne pourrai blasphémer ou jurer. Je ne pourrai donc ni faire l'un ni l'autre. Et le remède divin au souci, dit-il, c'est de prier en toutes circonstances. » Et cela me rappelle une chère chrétienne très très consacrée qui, après avoir écouté un de ses messages avant c'était sur cassette que je les faisais, il y a plus de 40 ans évidemment, eh bien, elle est venue vers moi et elle m'a dit que j'ai pris mon parti de mon vieux tapis usé, qui est usé jusqu'à la corde, qui a mauvaise façon, qui a l'air misérable, n'ayant jamais pu économiser assez d'argent pour en acheter un neuf. J'en avais bien honte parfois, et j'ai essayé de tirer des plans pour m'en procurer un autre, mais je ne suis jamais arrivé, jamais. Et je pensais qu'il était normal de prier pour les âmes perdues, seulement pour les âmes perdues, mais surtout jamais pour des choses comme un tapis. Je n'aurais jamais osé demander à Dieu de si petites choses. Mais maintenant que j'ai écouté votre cassette, je dis bien il y a plus de 40 ans, eh bien maintenant, je vais lui demander en toute confiance de me donner un nouveau tapis. Et il y a un merveilleux chant anglais qui dit « Quel ami nous avons en Jésus-Christ ! Il prit nos péchés, notre misère. Mes fardeaux, je ne les porte plus. Je les laisse à Dieu dans la prière. Quelle paix, bien souvent nous perdons, souffrant bien plus qu'il n'est nécessaire, pour n'avoir pas appris la leçon de tout lui confier dans la prière. » C'est un merveilleux chant anglais. Et quatrièmement, ouvrez à Dieu toutes les portes secrètes de votre cœur. N'ayez pas peur d'ouvrir à Dieu toutes les portes secrètes de votre cœur. La maman reste au village, mais comme elle languit d'avoir des nouvelles de sa fille qui travaille en ville, elle veut tout savoir de ce qui lui peut arriver. Tout ce qui lui arrive, elle veut absolument le savoir. Le vêtement qu'elle s'est acheté, les nouveaux amis rencontrés, l'emploi de ses soirées. Elle veut même voir chaque petite photo et recevoir chaque confidence intime. Le papa pense à peu près la même chose, mais il n'ose pas le dire. C'est bien la chose la plus triste pour des parents, quand ils sentent que leurs enfants leur échappent, qu'ils n'ont plus de place dans leur confidence et qu'ils sont devenus pour eux presque des étrangers. N'en est-il pas de même pour notre Père Céleste au sujet de ses enfants, je vous le demande? Nous lui sommes si chers, et c'est une chose que je n'ai encore jamais pu comprendre. Quand j'arriverai au ciel, je demanderai au Seigneur pourquoi il avait besoin de nous, pourquoi il nous a cherchés, comme s'il ne pouvait se passer de notre amour. Même lors de son innocence, ça c'est un mystère que Dieu ait ainsi pris son plaisir à s'entretenir avec Adam. Rappelez-vous dans la Genèse, dans le jardin d'Éden. Et combien plus qu'il se soucie de misérables créatures déchues, on peut le dire, telles que vous et moi. Et pourtant, c'est un fait indéniable. Oui, c'est pourquoi, voyez-vous, il veut que nous partagions avec lui tous nos fardeaux et tous nos soucis, comme toutes nos joies, et que nous lui exprimions chacun de nos désirs comme chaque cri de nos cœurs angoissés. Et depuis que j'ai appris ce merveilleux secret, eh bien, voyez-vous, cela a révolutionné toute ma vie intérieure. Oui, en effet, j'ai découvert que j'avais le droit mais même le devoir d'apporter à Dieu chacun de mes désirs et que je devais le prier absolument pour tout. C'est devenu une habitude. Mais une bonne habitude d'avoir une relation de père en fils ou de père envers sa fille. Et cela implique évidemment que j'ouvre toutes les portes de mon âme, de mon esprit, à Dieu. Il sait bien ce qui se passe en moi. D'ailleurs, pourquoi donc essayer de le lui cacher. C'est inutile. Il sonde nos cœurs et nos reins. Puisque Dieu m'aime plus qu'aucun père ne peut aimer son enfant, pourquoi ne lui parlerai-je pas librement de tous mes besoins et de tous mes désirs? Si même je sens en moi un désir qui ne soit pas selon sa sainte volonté, pourquoi pas le confesser honnêtement? Et ceci afin que tous mes désirs soient rendus conformes, totalement conformes aux siens. Ça, c'est important. Aussi, j'ai résolu devant Dieu de ne jamais désirer aucune chose dont j'aurai honte, dont j'aurai carrément honte de m'entretenir avec lui. Et s'il me donne la grâce de lui confesser tout désir équivoque, eh bien, il me donne aussi, croyez-moi, l'assurance bénie que je peux lui demander tout ce dont j'ai réellement besoin. Oui, chers frères et sœurs, ne renfermez pas votre Dieu dans un petit coin uniquement de votre cœur, mais dites-lui absolument tout. Oui, Dieu, croyez-moi, est absolument disposé à vous accorder les désirs de votre cœur, et ceci à moins que ce ne soit nuisible. Oui, ça peut arriver. Si quelque chose pourrait être nuisible à votre propre vie intérieure et surtout contraire à son saint honneur. Donc, faites de tout ce qui vous préoccupe un sujet de prière, tout simplement. Et si vous remplissez les conditions requises, il vous accordera sûrement les désirs de votre cœur. Nous arrivons à la deuxième partie de notre étude, où il est dit « Priez selon la volonté de Dieu ». Ça, c'est important de prier selon la volonté de Dieu. La Bible nous dit dans Saint Matthieu chapitre 26, verset 39, « Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et dans l'évangile de Saint Matthieu, toujours au chapitre 26, mais au verset 42, là il est dit « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Et encore, dans 1 Jean, premier épître de Jean, chapitre 5, verset 14, là nous voyons qu'il est écrit « Nous avons auprès de lui, auprès de Dieu, cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. » Je répète, nous avons auprès de notre Père Céleste cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose, n'importe laquelle, que nous lui demandons, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Et dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 13, là il est dit « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, et ceci afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Ça vaut la peine de le répéter. Et tout ce que vous demanderez en mon saint nom, je le ferai. Et ceci afin que le Père céleste soit glorifié dans le Fils. Donc, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Évangile de Saint Jean, chapitre 14, verset 13. La prière exaucée est vraiment, pour ceux qui aiment le Seigneur et qui sont soumis à sa volonté, ça c'est important, n'est-ce pas? Un inconverti, il peut aussi prier, certes, exactement comme le publicain. Il n'y a pas de raison qu'il ne puisse pas prier. Quand le publicain a dit « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Ou, rappelez-vous le brigand sur la croix, il a dit « Seigneur, souviens-toi de moi. » De même que ces deux hommes, des millions de pécheurs, ils ont été ainsi exaucés comme ces deux hommes, et ils ont même obtenu le salut. Les pécheurs ont donc absolument le droit de prier, mais s'ils veulent être exaucés, il leur faut capituler. Il faut qu'ils se soumettent à la volonté divine, s'engager à l'aimer désormais pour le servir. Voyez-vous, il est vrai que dans sa miséricorde infinie, Dieu a beaucoup de plaisir à exaucer la prière. Il ne peut le faire en toute justice pour ceux qu'il haïsse et qui se refuse à faire sa volonté, évidemment, ça c'est clair. Si donc vous voulez voir vos prières exaucées, cherchez à prier selon la volonté de Dieu, et non pas contrairement à sa volonté. Donc recherchez les choses qui lui plaisent, qui l'honorent, et non pas celle qui l'attriste et qui entrave carrément son témoignage en favorisant, par exemple, le péché. Ça, c'est une chose qu'il faut éviter. Oui, Dieu vous aime, mes chers amis, et il vous aime au point d'avoir livré son propre Fils, son Fils bien-aimé, au calvaire, pour le salut de votre âme. Il a tellement à cœur votre bonheur et votre bien éternel que si vous priez selon sa propre inspiration, il ne manquera pas de vous répondre et de vous accorder les choses les plus excellentes. Oui, celles que vous n'auriez pas même imaginé de demander sans le secours du Saint-Esprit. Lui, qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? C'est écrit dans Romains, chapitre 8, verset 32. Prier selon la volonté de Dieu n'implique donc pas que nous demanderons moins, mais bien davantage au contraire. Réclamer ce que Dieu veut que nous possédions résultera en un bonheur infiniment plus grand que si nous pouvions obtenir tout ce que notre cœur désire hors de sa volonté, une soumission absolue dans ce domaine n'est donc pas seulement notre devoir, mais elle constitue la suprême sagesse. En effet, ce que Dieu veut vous accorder est précisément ce que vous lui demanderiez si vous aviez toute la connaissance spirituelle nécessaire et si vous saviez, comme Dieu le sait, à quel point cela contribue à votre bonheur, à la bénédiction permanente dans votre vie. Il est donc parfaitement insensé de prier sciemment en opposition carrément de la volonté de Dieu. Et s'il répondait à de telles prières, s'il vous plaît, croyez-moi, ce serait autant à votre détriment qu'à celui de sa propre gloire. Oui, le Seigneur Jésus-Christ a pu dire au cours de son ministère terrestre, « Je sais que tu m'exauces toujours. » Saint Jean, chapitre 11, verset 42. « Le Père a entendu et exaucé chacun, ou chacune plutôt, des prières de son Fils bien-aimé. » Et ceci avec l'unique exception de celle qu'il a prononcée sur la croix. Rappelez-vous, chers amis, ça c'était terrible. « Je sais que tu m'exauces toujours », a-t-il dit. Oui, mais là il a dit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» En cette occasion solennelle, ce n'était pas en sa qualité de fils, oh non, c'est pas en sa qualité de fils qu'il s'adressait au Père, écoutez bien, mais comme incarnant en lui-même, toute l'humanité pécheresse, moi y compris, dont il portait l'iniquité. L'iniquité en son corps sur le bois maudit. Il ne pouvait alors dire « Père » car il occupait la place d'un pécheur réprouvé que Dieu a dû momentanément abandonner afin qu'il puisse ensuite nous accueillir en son saint nom. Nous, les pécheurs que nous sommes, revêtus enfin de la parfaite justice de son Fils bien-aimé. Nous trouvons cette prière prophétique également au psaume chapitre 22, verset 3, où le Messie à venir s'écrie « Mon Dieu, je crie le jour ». Et tu ne réponds pas, la nuit, et je n'ai point de repos. À l'exception de cette unique prière de notre substitut, Dieu a exaucé chacune des requêtes, de son Fils bien-aimé, car il se présentait toujours à son Père, étant dans sa volonté, de sorte que rien ne pouvait lui être refusé. Aimeriez-vous, chers amis, être toujours exaucé quand vous priez? Voudriez-vous recevoir tout de votre Père au même titre que le Seigneur Jésus-Christ lui-même? Si oui, ayez en vous alors, là oui, ça c'est important, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. selon Philippiens chapitre 2, verset 5. Premièrement, nous allons essayer de comprendre des exemples de Jésus-Christ en Gethsémané. L'exemple le plus frappant de l'abandon total du Sauveur à la volonté du Père nous est donné à l'heure où il a été prostré sous le fait écrasant du péché du monde. Dans cette nuit terrible au jardin de Gethsémané, là, son âme était triste jusqu'à la mort. Saint Matthieu chapitre 26, et je crois verset 38. Et que sa sueur même devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Saint Luc chapitre 22, verset 44. Jésus-Christ pria alors en disant « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux moi, mais ce que tu veux. » Saint Matthieu 26, verset 39. Il répéta par trois fois cette même prière en présence de la plus atroce souffrance. Il a pu dire sans hésitation à son Père et notre Père, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Cet épisode des Saintes Écritures a souvent été mal interprété et certains en ont conclu que Jésus-Christ avait supplié le Père de lui permettre tout simplement d'échapper à la croix et qu'il ne s'y était soumis que à regret et avec beaucoup de peine. Mais cela est totalement insensé à la lumière des autres passages des Saintes Écritures. Le verset de Hébreux, chapitre 5, verset 7, qui fait allusion à cette prière, nous dit que dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété. Ainsi, dans le jardin, Jésus a prié d'être délivré de cette mort prématurée. Satan aurait voulu lui imposer la coupe amère avant même l'heure fixée par Dieu et le faire mourir là, en Gethsémané. Et ceci afin que les Écritures saintes ne puissent pas s'accomplir et que l'agneau ne soit pas immolé en ce jour de Pâques et qu'il ne soit pas pendu au bois entre deux brigands et que sa mort ne s'effectue pas selon les Saintes Écritures. Lisez, notez 1 Corinthiens chapitre 15 versets 3 à 4. Donc, si le plan du diable s'était réalisé, la volonté de Dieu aurait été frustrée, les Saintes Écritures ne se seraient jamais accomplies et la mort de Christ n'aurait pas pu sauver absolument personne. Et c'est pourquoi il a prié comme il l'a fait et le Père, qui avait le pouvoir de le délivrer de la mort, l'en a délivré ce soir-là, permettant au lendemain, plutôt permettant de remettre au lendemain cette fameuse coupe inévitable de la croix. Voyez-vous ? Ainsi donc, la prière de Christ a bien été exaucée. et que personne ne pense qu'il était simplement résigné à cette mort sur la croix. Bien au contraire, il a pu dire, selon Saint Luc chapitre 12, qu'il est un baptême dont je dois être baptisé. Et combien il me tarde qu'il soit accompli. Évidemment, ce n'était pas facile. Il y avait là un baptême dont il devait être baptisé. Et il dit encore dans Saint Jean chapitre 10, verset 17, « Le Père m'aime, oh oui, parce que je donne ma vie. Personne ne m'ôte la vie, car je la donne de moi-même. Et j'ai le pouvoir de la donner, et j'ai aussi le pouvoir de la reprendre. Tel est donc l'ordre que j'ai reçu, que j'ai vraiment reçu de mon Père. » Saint Jean chapitre 10, verset 17. Et bien longtemps avant son incarnation et dès sa venue dans ce monde, Jésus-Christ était parfaitement soumis à la pensée de s'acheminer vers la croix. Il le savait. Et ce que je veux affirmer ici, c'est que notre Seigneur ne s'est pas résigné avec crainte et hésitation à subir la volonté de Dieu. Non, non, non. Il n'a pas demandé une chose et il ne s'est pas soumis à une autre. Certainement pas. Jésus a prié dans la volonté de Dieu, non pas en opposition avec cette volonté. Je répète, il a prié Jésus-Christ dans la volonté de Dieu et non pas en opposition avec cette volonté. Et donc, il a obtenu de son Père ce qu'il lui demandait. L'exemple qu'il nous laisse, ce n'est pas de demander que les choses se passent comme nous le désirons, tout en nous résignant à y renoncer s'il le faut. Mais plutôt que connaissant la volonté de Dieu, nous en réclamions l'accomplissement tout le long du chemin, à l'exemple de notre merveilleux Maître. Il est donc évident que nous ne pourrons pas toujours connaître cette volonté divine aussi infailliblement que cela était le cas pour le Seigneur Jésus-Christ, et sans doute était-ce principalement pour nous servir d'exemple qu'il a prié par trois fois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Donc, cette prière nous étant réitérée, et ceci par les trois évangiles synoptiques, comme, voyez-vous, comme si le Saint-Esprit jugeait bon d'insister sur le fait. Donc, tout chrétien doit en venir à cette attitude du cœur envers Dieu dans chacune de ses prières, de nos prières, non pas ce que je veux moi, Seigneur, mais ce que tu veux toi. Oh, puissions-nous tous apprendre à prier avec des cœurs vraiment soumis à la volonté parfaite de notre Dieu, de notre Père céleste. Deuxièmement, nous avons l'assurance dans la prière. Quand nous sommes assurés de prier selon sa sainte volonté, grand doit être notre certitude de l'exaucement. Et ceci, selon la promesse de Saint Jean, premier épître de Saint Jean, chapitre 5, verset 14, qui est en tête de ce chapitre. Comme il nous est doux vraiment de prier carrément avec cette assurance que Dieu nous écoute volontiers puisque nous demandons ce qu'il est conforme à sa volonté. Prions donc ainsi et nous pouvons littéralement savoir, oui savoir, sans l'ombre d'un doute, que nous allons recevoir ce que nous avons demandé. C'est une bonne raison pour faire de l'Éternel nos délices et pour nous réjouir de sa sainte parole, de son œuvre, de sa volonté, de sa douce présence dans la communion du Saint-Esprit, selon la promesse du psaume chapitre 37, verset 4, où il est dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera vraiment ce que ton cœur désire. Autrement dit, le moyen d'obtenir l'exaucement de nos prières, c'est de nous réjouir dans la volonté de notre Dieu, d'être si absolument soumis à ses pensées et à ses plans que nous en venions à considérer toute chose à son point de vue, à son point de vue, de sorte qu'il puisse nous faire confiance en nous accordant les délices de notre cœur. Voilà donc ce qui s'appelle prier selon la volonté de Dieu. Nous retrouvons cette même pensée quand Jésus-Christ nous dit dans Saint Jean chapitre 15, verset 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Oh oui, chers amis, demeurez en Christ, car cela implique être un avec lui et être pleinement d'accord avec lui dans une confiance et joyeuse soumission à sa sainte volonté. Mais il ne suffit pas seulement d'aimer le Seigneur et d'être soumis à sa volonté pour obtenir l'exaucement habituel de nos prières. Encore faut-il que nous connaissions cette volonté divine, bien sûr, telle qu'elle nous est révélée dans les Saintes Écritures. Ainsi, cette condition qui nous est posée, que mes paroles demeurent en vous, implique une connaissance, oui, une connaissance de la Bible, non par notre cerveau seulement, mais par notre cœur, notre âme. Ces paroles devenant ainsi une réalité vivante en nous, si nous demeurons en lui de cette manière, et alors nous pouvons demander tout ce que nous voulons et l'obtenir de lui. Oui, ainsi, l'amour pour la parole divine et la réception de cette parole dans notre cœur sont compris dans la prière selon la volonté de Dieu, car c'est principalement par le moyen de sa sainte parole que cette volonté est révélée. Oui, voyez-vous, il me semble que c'est étrange que certaines personnes peuvent connaître la Bible à la lettre même, et cependant ne jamais en assimiler le message spirituel. Il y a donc quelques années, un très brave colporteur, il vendait des Bibles à une compagnie de réveil et il m'a dit un jour qu'il avait lu sa Bible d'un bout à l'autre chaque année et cela pendant 22 ans consécutifs. Donc, évidemment, il y en a peu entre nous qui ont certainement fait cela. Et je n'ai aucun doute quant à sa sincérité et à son zèle au service de Christ. Et pourtant, il m'a confié certains doutes qu'il avait quant à la possession de la vie éternelle, quant aussi au retour de Christ, avant ou après le millénium, et il pensait qu'il fallait peut-être bien être baptisé pour acquérir l'assurance du salut. Cet homme avait lu sa Bible tellement de fois, mais il n'en possédait encore que la lettre. Que la lettre. Oh, bien sûr, presque par cœur. Ainsi, les Écritures ne disent pas que lire la Bible soit suffisant pour le chrétien. Évidemment, ceux qui la lisent que à Pâques et à Noël, ça, c'est évidemment épouvantable. Et nous ne voulons pas parler de cela, car c'est déjà assez grave. Mais si nous voulons connaître, chers amis, la volonté de Dieu, et ceci de manière à prier avec la confiance d'obtenir son exaucement, il nous faut évidemment, posséder cette parole divine, non pas seulement dans notre cerveau, froidement, et d'apprendre une centaine de versets par cœur, ça ne suffit pas. Il faut que cette sainte parole divine soit vraiment gravée dans notre cœur et dans notre esprit. Dans le psaume chapitre 1, verset 2, il est question de l'homme bienheureux, de cet homme bienheureux qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit jamais. Tout ce qu'il fait lui réussit. N'est-ce pas là une promesse bénie aussi pour le chrétien? Oui, c'est en réalité une promesse qui peut s'appliquer à la vie de prière, car elle en revient à dire que l'homme qui prend son plaisir dans la loi de son Dieu obtiendra tout ce qu'il désire, que Dieu le fera prospérer et lui accordera tout ce dont il a besoin. Cela ne peut se produire que si le croyant recherche de tout son cœur la connaissance de la volonté de Dieu afin de prier selon cette volonté, de sorte que Dieu pourra lui confier l'exaucement de ses désirs. Troisièmement, nous devons demander carrément tout dans le nom de Jésus-Christ. Dans bien des passages de la parole de Dieu, il nous est ordonné de prier au nom de Jésus selon Saint Jean, chapitre 14 et chapitre... Non, selon Saint Jean, je crois, chapitre 14, ça c'est vrai, mais au verset 13, voilà, au verset 13. Ainsi, quoi que ce soit que nous demandions en son nom, Dieu a promis de nous l'accorder. Comment donc se fait-il que nous ne le recevons pas toujours? Nous ne recevons pas toujours ce que nous demandons. Ça, c'est une question que beaucoup se posent. Ne terminons-nous pas toujours notre prière par cette formule « Nous le demandons dans le nom de Jésus. Amen. » Jusqu'à présent, nous dit-il dans Saint Jean chapitre 16, verset 24, « Vous n'avez rien demandé en mon nom, donc demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. » le secret de l'exaucement et de la joie merveilleuse qui en découle, c'est donc de demander dans le nom de Jésus-Christ. Mais, il y a un mais, c'est ici que beaucoup d'entre nous sommes en quelque sorte des faussaires en joignant d'une façon magique le nom de Jésus-Christ à des prières qu'il ne pourrait endosser de sa signature, cherchant à utiliser son nom surtout pour obtenir des choses qu'il ne saurait approuver. La Bible ne nous promet pas l'exaucement de toute prière prononcée en utilisant ainsi ce nom sacré d'une façon magique, mais c'est le là seul qui exprime ce que lui-même désire, ce qu'il demanderait, lui, Jésus-Christ, pour nous. Donc, au nom de Jésus, ne saurait être employé ce nom-là simplement comme une formule magique. Ce n'était aucunement dans la pensée de Dieu que ces mots soient prononcés à la fin de chaque prière automatiquement et d'une façon magique, et ils ne figurent pas même dans la prière dominicale, pas plus que dans celles qui nous sont rapportées au cours du Nouveau Testament. Donc, ces chrétiens bibliques prient dans la volonté de Dieu sans même mentionner que c'était au nom de Jésus-Christ, car cette condition d'exaucement n'est pas une question de mots ni de termes, voyez-vous, mais c'est l'attitude du cœur qui compte. Je répète, c'est l'attitude de notre cœur qui compte, pas seulement les mots. Nul ne saurait prier dans le nom de Jésus sans savoir ce qu'il désire et sans unir ses désirs à ceux de son Seigneur quant à l'affaire en question. Donc, il en revient à dire que prier au nom de Jésus-Christ, c'est l'équivalent de la prière dans la volonté de Dieu. Je répète, car c'est important. Prier au nom de Jésus-Christ, c'est l'équivalent de la prière dans la volonté de Dieu. Et quatrièmement, la foi vient surtout lorsque nous prions selon la volonté de Dieu. La foi, la capacité de croire, croire à l'exaucement, nous est souvent proposée dans la Bible comme le sûr moyen d'obtenir la réponse divine à nos prières. Notez Saint Marc, chapitre 9, verset 23, et bien d'autres précieuses promesses nous montrent que toutes choses sont possibles à celui qui croit, que vous pouvez obtenir tout ce que vous désirez, à condition, bien entendu, de ne point douter. Et notez encore Saint Matthieu, chapitre 21, verset 22. Nous examinerons dans un prochain CD comment exercer cette foi en Dieu et nous fortifier ainsi dans la foi. Mais je voudrais maintenant attirer votre attention sur le fait que la foi est un don, carrément un don de Dieu. Et là, vous pouvez noter 1 Corinthiens chapitre 12, verset 9. Et nul ne peut exercer, croyez-moi, nul ne peut exercer n'importe quoi sans que ce soit dans le saint nom de Jésus-Christ. Ça, c'est certain. Quand nous prions dans la volonté de Dieu, et ceci d'un cœur parfaitement soumis, ça c'est important, et sachant par la conviction intime de l'Esprit Saint et par la Sainte Parole que nous sommes bien dans la ligne divine, alors la foi se trouve vivifiée en nous, ça c'est merveilleux, et nous attendons donc ainsi, avec une pleine confiance, la bénédiction promise. Ainsi, il est aisé d'exercer la foi en Dieu quand nous savons que la chose demandée est vraiment selon sa volonté. Oui, chers amis, soumettez donc à votre Dieu tout, à votre Père céleste, absolument tout, et abandonnez toute rébellion, tout désir charnel de faire à votre gré tout ce qui déplaît au Seigneur. Dieu veut vous accorder le désir de votre cœur. Il veut vous rendre heureux, fort et prospère. Il veut que vous soyez remplis du Saint-Esprit et de la puissance du Saint-Esprit pour gagner des âmes. Vous l'avez bien entendu, pour gagner des âmes, pas seulement pour vous asseoir dans un fauteuil et aller au bord du lac. Et ceci en pleine possession de toutes les bénédictions qui vous ont été acquises à la croix. Mais Dieu lui-même ne peut rien faire pour vous avant que votre cœur ait été brisé. Notre cœur doit être brisé, ça c'est pas facile. Il doit même être humilié, nous devons nous humilier pleinement et être pleinement soumis à sa sainte volonté, où que ce soit qu'il veuille nous conduire. Chers amis, je suis persuadé que de tels témoignages de la part de ceux qui ont fait des merveilleuses expériences de la fidélité de Dieu sont absolument nécessaires à l'édification du peuple de Dieu. Toutefois, lorsque je parle de ces merveilleux exaucements que vous entendrez dans d'autres CD, je découvre que les gens sont tentés de venir à moi afin que j'obtienne aussi en leur faveur de semblables délivrances, comme si Dieu était beaucoup plus disposé à exaucer mes prières. Et c'est pour moi vraiment un sujet de réelle tristesse, car le fait est que chacun d'entre vous, a absolument le droit de s'attendre à Dieu, et ceci au même titre que n'importe quel frère et sœur. Il est clair que si vous priez en dehors de la volonté de Dieu, ou s'il existe dans votre vie quelques interdits qui peuvent bloquer le passage à la réponse divine, il est insensé, totalement insensé, de s'imaginer que le concours d'autres frères et sœurs, si consacré soit-il, puisse miraculeusement faire obtenir de Dieu ce que vous désirez. C'est impossible. Ce qu'il convient, en occurrence, c'est de sonder votre cœur devant Dieu. C'est de vous assurer d'être bien dans les lignes de sa volonté telle qu'elle nous est révélée dans sa sainte parole, par la direction, et ainsi de prier alors dans l'assurance disposée, croyez-moi, à exaucer votre prière que celle de qui que ce soit au monde. Pourvu, requise avec un cœur soumis à sa sainte volonté. Nous terminerons maintenant avec quelque chose que le Seigneur voudrait me donner pour vous. Oui. Donc, avant de nous quitter aujourd'hui, le Seigneur désire vous transmettre par son Esprit Saint quelques merveilleuses paroles d'encouragement. Voici ces paroles. Jésus-Christ est le don que Dieu fait à l'homme. L'homme n'a pas connu le Dieu Père que grâce à ce don. Et c'est grâce à ce don encore que l'homme a su qu'il avait en permanence un avocat pour le représenter devant Dieu, le Christ qui est son tâche. Il en est un qui vous comprend toujours et dont le plaidoyer est toujours entendu. Il possède, en effet, les prérogatives du Fils. Il est qualifié pour parler en votre nom. Puisqu'il s'est qualifié pour plaider en faveur de l'homme coupable, dont il a assumé pleinement la condition pour garantir son avenir, quel meilleur avocat pourriez-vous avoir ? Il sait par expérience et il a connu les larmes de l'affliction. Il a eu le cœur brisé. Il a été tenté. Il peut effectivement plaider notre cause comme nul autre. Sa propre tentation a été si réelle que même s'il en est sorti vainqueur, il ne peut que souffrir intensément avec celui qui succombe, car il sait par expérience que le mal peut se donner un air d'innocence et il estime à sa juste valeur le poids d'un sang douteux, d'une hérédité trop lourde et du péché qui en résulte. Dieu a donné son Fils unique. Il est ce don ineffable. Jésus-Christ, votre ami et votre compagnon de route, apportez-lui tout à Christ qui plaide votre cause. Son passage sur terre l'a qualifié pour plaider cette cause, non la sienne, mais celle de quiconque lui a tout apporté et s'en remet à lui pour absolument tout. Donc, venez vers le Seigneur Jésus-Christ. Il vous enseignera et écoutez-le et il vous parlera. Continuez de venir fidèlement à ces rendez-vous, que aucun empêchement, aucun obstacle ne vous décourage, ni les jours où vous n'entendrez rien et où il vous semblera que c'en est fait de ces entretiens à cœur ouvert. Le Seigneur nous dit « Ayez confiance ». Et surtout, soyez sans crainte. La vie vous réserve des choses merveilleuses. Donc, ouvrez des yeux confiants, des yeux d'enfant, sur tout ce qu'il fait pour vous. N'ayez aucune crainte et croyez en lui et ayez confiance en lui. À bientôt, mes chers amis, pour la prochaine étude. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir, très chers amis.